Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour sa présence et sa bonté envers nous, en nous autorisant et en nous permettant de l'écouter. Tout ça, nous l'avons obtenu parce que Jésus, par son sang, a traversé le lieu très saint pour dire à Dieu, son Père, qu'il a payé le prix pour faire de nous ses enfants. Désormais, on peut parler et écouter notre Dieu comme étant notre Père. C'est ce que nous comptons faire aujourd'hui encore. Et nous commençons par Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Un passage qui est connu par beaucoup de personnes.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Voilà, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est comme une sorte de contradiction, parce que on dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Ça veut dire qu'on peut s'approcher de Dieu et croire vaguement à son existence. Vivre la chose d'une manière légère. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux, c'est considérer qu'il existe. C'est pas dans le peut-être, c'est pas une probabilité qu'il existe. Une autre façon de dire qu'il existe, c'est dire qu'il est réel, qu'il est en face. Je pense, frères et sœurs, si on me disait qu'il y avait un éléphant cachant la porte ou bien obstruant la porte, si je crois vraiment qu'il y a l'éléphant, si je le vois, je ne bougerai plus de ma place. Je reste à ma place, je ne veux pas forcer un éléphant. Mais lorsque je ne crois pas, lorsque c'est une supposition pour moi, du moment que je ne vois rien, je vais m'avancer. Sans problème. Il y a une différence. Même si, en apparence, il n'y a rien, moi, si je crois qu'il y a quelque chose, je ne m'avance pas. Je suis prudent. Je fais attention. Dois croire qu'il existe. Quand tu sais qu'il y a quelque chose, même si tu ne vois pas, tu sais qu'il y a un éléphant, tu dis, ah non, je sais que j'entends son souffle. Il est là. Même si mes yeux ne voient pas, je ne bouge pas. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui de le prendre au sérieux. Si on parle de lui, si on va dans les églises, si on prie avec des frères et sœurs, ça ne doit pas être quelque chose de religieux, mais quelque chose de réel. C'est du réel. Sinon, il ne parlerait pas ainsi. Pour dire, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Il ne parlerait pas ainsi parce qu'il voit les cœurs. Il voit que beaucoup prient, croient, mais vous savez, c'est comme quelque chose de lointain. Le Seigneur ne veut pas que ce soit quelque chose de lointain. L'apôtre Paul nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que Dieu est près de chacun de nous. Mais à combien plus forte raison quand on croit en lui? Il est déjà près de chaque homme, tout en restant invisible. Mais à combien plus forte raison quand on est son enfant? Donc c'est encore plus sérieux. Et ça finit. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que dans ta relation avec Dieu, c'est vrai, Dieu est content quand il y a c'est une relation désintéressée. Dans l'amour, il est, vous savez, dans une relation désintéressée, on ne s'attend pas à quelque chose. Donc on aime et un point c'est tout. Dieu est content quand un chrétien a cette attitude-là d'une relation désintéressée avec lui. Il l'aime vraiment tout simplement comme son père. Vous savez, quand on aime nos parents ou bien on aime nos enfants, il n'est pas pour le vrai amour. Il n'est pas question de performance. On ne s'attend pas à quelque chose. On aime, c'est tout, c'est dans le sang. Et c'est vrai qu'il est content quand c'est comme ça, mais il dit avec lui, si on l'aime, si on est en relation avec lui, il faut s'attendre que cette relation-là soit sanctionnée par la manifestation de sa gloire. Il faut s'y attendre. Et qu'un chrétien qui ne s'y attend pas offense Dieu en quelque sorte. Même si il pense être animé d'une bonne intention en disant, mais non, mais moi j'aime Dieu, il me suffit comme ça, qu'il se manifeste ou pas, c'est bon pour moi. C'est très bien ça. Mais attention, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Il dit, il faut s'attendre à une rémunération, c'est-à-dire il faut s'attendre à ce que Dieu paraisse d'une manière glorieuse et visible et palpable. Il faut s'y attendre. Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. La foi sans voir, c'est ce que Dieu veut. Mais la foi sans s'attendre à voir, Dieu n'en veut pas. Dieu veut d'une foi sans voir, c'est-à-dire je crois en lui, je n'ai pas vu. Mais je dois croire que ce qu'il m'a promis s'accomplira. Je dois m'attendre à voir. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait du sérieux. Le sérieux, c'est s'attendre à voir les paroles, les termes du contrat qu'on a fait avec quelqu'un s'accomplir. C'est ça le sérieux. S'il y a pas, on ne pense pas que quelqu'un est sérieux, il va nous donner un chèque de 1000 euros, on ne l'encaisse pas, on déchire parce qu'on se dit, oh, c'est quelqu'un qui blague souvent. Je ne pense pas que ce chèque soit vrai. Mais Dieu ne veut pas qu'on le traite comme ça. Il veut qu'on le traite comme un papa, comme notre père, d'accord. Comme un ami, d'accord. Donc tout ça, c'est l'amour désintéressé, d'accord. Mais il veut aussi qu'on s'attende à voir. Il veut qu'on s'attende à vivre l'accomplissement de toutes ses paroles. C'est ça qui fait que on le prend au sérieux. Prendre Dieu au sérieux, c'est un thème qui est large. Je vais me contenter de trois ou quatre points pour que ça soit concret. C'est estimer qu'il est là. Vous savez, il y a des moments où Dieu dit aux enfants d'Israël, vous commettez les péchés, vous faites des choses. Et vous considérez que je ne vois pas. Mais je ne pense pas qu'eux, ils ont dit, Dieu ne voit pas. Mais ils regardent à leur attitude dans la façon de faire. Ils considèrent que ces gens-là ne croient même pas à son existence. Ils ne sont pas sérieux. Bien-aimés, nous ne serons pas sauvés parce qu'on serait parfait, pas du tout. Mais on sera sauvés parce qu'on est sérieux avec Dieu. On le prend au sérieux. C'est ça qui va nous sauver. Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui est à la croix, qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus dit, aujourd'hui tu seras au paradis. Qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il soit, il aille au paradis? Il a été bandit jusqu'à sa mort. Jusqu'à quelques minutes avant sa mort. Donc il finit crucifié. Mais il a pris Jésus au sérieux. C'est ça qui lui a apporté le salut. Il a pris Jésus au sérieux. Il a dit, j'ai entendu dire que cet homme se considérait comme fils de Dieu. C'est lui le Machia, c'est lui loin de l'éternel. J'ai entendu. Et à le voir à côté de moi, à l'entendre encore là, et lui-même à côté de moi, je crois qu'il est, il est le Messie. Mais s'il est le Messie, alors il peut m'amener avec lui chez son père au paradis. C'est aussi simple que ça, c'est du sérieux. Je prie toujours pour que je sois calme, mais je n'arrive pas. Bien-aimé, c'est important. C'est du sérieux. Cet homme-là a manifesté une foi unique. Donc, quelqu'un qui est à la croix, tu penses que c'est lui qui est le Messie? Quelqu'un qui est à la croix, tu penses que c'est lui le Fils de Dieu? Lui, il a pris ça au sérieux. Conséquence, il n'a pas forcément demandé qu'on le sorte de la croix comme l'autre voisin. Il a demandé à être reçu dans les tabernacles éternels. Il a fait de Jésus son ami ici-bas pour être reçu chez Jésus au ciel. Voilà le sérieux. S'attendre à vivre la gloire de Dieu. C'est ça le sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux. Considérer que quand il dit qu'il est du ciel, il est du ciel. Le ciel existe, il est parti nous préparer des maisons. Prendre ça au sérieux. Et si on prend ça au sérieux, on définira notre vie en fonction de ça. On construira notre vie en fonction de ça. Comment prendre Dieu au sérieux? C'est prendre sa parole au sérieux. Je l'ai dit presque en parlant, mais on va lire un passage qui nous parle. 1 Thessaloniciens 2:13. C'est prendre tout ce qu'il a dit au sérieux. Il a dit beaucoup de choses. 1 Thessaloniciens 2:13.
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est, véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.
Amen, amen, amen. Paul dit, nous avons parlé. Normalement, vous auriez dû traiter nos paroles comme des paroles d'hommes, parce que c'est nous qui avons parlé. Mais je bénis Dieu, parce que vous avez compris que nos paroles n'étaient pas des paroles d'hommes, c'était des paroles venant de Dieu. Mais comme vous avez compris ça, vous avez pris ça au sérieux, la conséquence c'est quoi? C'est que ça agira en vous. Paul loue les bien-aimés de Thessalonique. Il est loué d'avoir pris les paroles de Dieu au sérieux, d'avoir cru que c'était Dieu qui parlait et que si Dieu parle, il y aura une suite. Bien-aimé, je reviens encore sur ce que je disais précédemment. Qu'on aime Dieu sans intérêt, c'est très bien. Qu'on aime Dieu, qu'on croit en lui sans voir, c'est très bien. Mais tout cela sera vain s'il n'y a pas une attente de voir. S'il n'y a pas une attente de vivre son règne, de vivre sa gloire. C'est ça la foi complète. Il dit, vous qui croyez en la parole, vous qui la prenez au sérieux, ben elle agira en vous. Maintenant, pourquoi elle va agir en vous? Parce que vous l'associerez à vos vies. Quelqu'un qui croit que ce qu'il sème, il moissonne. Quelqu'un qui croit que, parce que c'est écrit, hein, quelqu'un qui croit que ce qu'il investit pour Dieu, il le recevra au centuple. Parce que c'est écrit. Forcément, quand il aura des biens, il fera quoi? Mais il investira ça pour Dieu. Parce qu'il a pris ce que Dieu a dit au sérieux. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si vous allez manquer. Il va associer Dieu à ça. Quelqu'un qui croit, comme le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Quelqu'un qui croit cette phrase-là, il va s'attendre à voir la gloire de Dieu. Quelqu'un qui croit, Matthieu 28, 18 à 20, à l'effet de toutes les nations de disciples. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se disposer à faire de toutes les nations des disciples. En tout cas, il va se disposer, il va dire, moi je suis dispo, on y va, on y va. parce que c'est une vraie parole. Mais quelqu'un qui ne prend pas trop au sérieux cela, il va rester dans la distraction, en se disant, ben si c'est vraiment vrai, Dieu me secourra, si c'est vraiment vrai. Donc on voit qu'il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux. Marc 16, 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelqu'un qui croit en ça ne se satisfera pas de ne pas vivre des miracles. Non pas que nous croyons pour vivre des miracles, nous, on se connaît, on ne cherche pas cela. On ne cherche pas, on ne vit pas notre foi pour ça. Mais c'est des promesses du Seigneur. S'il est sérieux, il faut qu'on vive cela. C'est comme ça. Comme je crois, comme nous croyons que Dieu est sérieux, on doit s'attendre à expérimenter ces miracles. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, jusqu'au bout, bien-aimé, chaque jour, tu dois demander le miracle pour ta guérison. Chaque jour, même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui. Si vraiment tu prends Dieu au sérieux, demain tu dois le faire encore. Jusqu'à ce que lui-même te dise, je t'ai entendu, c'est le plus la peine. Mais à chaque fois, bien aimé, pourquoi on le refait? C'est pas par manque de foi. On le refait parce qu'à chaque fois, admettons que la maladie me suscite de la douleur. Mais à chaque fois que j'ai mal, je crie à Dieu. Je veux pas dire j'ai mal, bon non, Dieu m'a, j'ai déjà prié hier. Non, j'ai mal, réaction humaine, je crie Seigneur, délivre-moi. Tu es le Dieu de miracles, tu me l'as promis. Maintenant, le jour où il me dit, mon fils, c'est bon, je t'ai entendu, fais confiance, loue mon nom, c'est tout. Ah ben, on s'arrête aussi. Mais on doit s'y attendre. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu dit que c'est comme ça qu'on le prend au sérieux. Hébreux 11 le dit, celui qui croit en Dieu doit le prendre au sérieux. Donc, doit s'attendre à ce qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Il faut qu'il s'y attende. Un des passages que j'aime le plus, c'est Psaume 2, verset 8. Demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage. Moi, j'ai dit au Seigneur, je te demande les régions que Paul avait gagnées pour toi autrefois, qui ont été volées par l'islam et autre chose, la Turquie, donc, l'Irak, la Syrie. Seigneur, la Grèce, Thessalonique, Corinthe, tout ça. Il a dit, demande-moi les nations, bien-aimés. Si tu le prends au sérieux, tu vas lui demander. Au fait, qu'est-ce qui va se passer quand tu lis la Bible? Il va se passer que un passage va à un moment te bloquer. Quand tu lis, tu dis, quelque chose te touche. Ce n'est pas que toutes les autres paroles qui ne te touchent pas ne sont pas valables pour toi. Ça ne veut pas dire ça. Mais Dieu nous aide. Il va faire en sorte qu'une parole te touche. Ça veut dire que tu dois prendre au sérieux cette parole-là et la construire dans ta vie. Pas négliger les autres paroles, mais mettre la priorité quand même sur celle qui t'a comme ébranlé. C'est ça. Mais pour tout le reste aussi, si tu as envie de dire, d'utiliser une parole qui est donnée dans la Bible, il s'est écrit que une femme dans la maison de Dieu est une vigne féconde. Mais tu pries pour la sœur que tu trouves qu'elle enfante pas. Tu dis, mais Seigneur, il y a ça. Ce verset. Je construis mes prières autour de ça. Bien aimé, la parole, comment on gère la parole montre notre sérieux avec Dieu. On lit, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'utilise? On te donne toutes sortes de chèques. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas déposer dans les banques? Si tu ne le fais pas, tu ne prends pas la personne qui a donné le chèque au sérieux. Les personnes qui ont donné le chèque, tu ne les prends pas au sérieux. Si on peut, la parole, c'est comme des chèques. On t'a donné tout ça, tu en fais quoi? Tu continues à construire ta vie autour de ton salaire, sur ton salaire. Tu construis ta vie sur tes amis. En comptant sur les humains. Tu ne prends pas Dieu au sérieux. Bien-aimé, je ne sais pas comment expliquer ça. On ne peut pas comprendre quelqu'un quelqu'un à qui on donne 20 lingots d'or. On ne peut pas comprendre que cet homme-là ne mange pas bien. Parce qu'il n'y a pas à manger. On ne peut pas comprendre qu'il soit habillé en oripeau. On ne peut pas comprendre ça. On va dire, mais est-ce qu'il sait que ça, c'est de l'or qu'on lui a donné? On va l'amener voir un psychiatre, je crois, dans le monde. Mais est-ce qu'il n'est pas fou? Il a 20 lingots d'or et il ne mange pas à satiété, il ne mange pas de la qualité. Il a 20 lingots d'or. Par manque d'argent, il est à pied. On dira, cet homme-là ne prend pas au sérieux. S'il est saint d'esprit, hein, il ne prend pas au sérieux ce qu'on lui a donné. Il doit croire que ce n'est pas de l'or. Il doit croire, vous savez, il y a des chocolats aussi qui sont faits comme, comme des, enrobés d'un film en or. Hein. Donc, il doit penser que c'est du chocolat. Il y a des pièces de chocolat qu'on enrobe avec un film doré comme si c'était zéro. Hein. Mais, donc, la personne doit croire que c'est des chocolats, des lingots chocolat, comme, en chocolat. Voilà. Parce que quelqu'un qui a 20 lingots d'or, et vous le voyez que... pendant 3 heures, 4 heures, faire des démarches pour chercher l'emploi, vous me direz, ah ben, peut-être qu'il veut être utile pour la société. Mais oui, mais si c'est, ça, s'il dépend de cet emploi-là pour manger, pour vivre, pour s'habiller, on se dira, mais non, on peut comprendre qu'il veut être utile à la société, mais quand même déjà bien manger parce qu'il a de l'argent. Conclusion, vous direz, il sait pas qu'il a de l'argent. Il sait pas que c'est des longues d'eau. Alors, imaginez l'étonnement de Dieu avec toutes les promesses qu'il a données dans la Bible, avec toutes ces paroles où il dit que tout homme forgé contre vous est sans effet. Toutes sortes de choses qu'il a dites dans la Bible. Et puis il voit que nous cherchons le secours ailleurs. Auprès de l'État français, on cherche du secours. On cherche du secours auprès des humains. On cherche du secours auprès des parents. On cherche... mais Dieu se dit, mais ils ne me prennent pas au sérieux. Ils ne me prennent pas au sérieux. C'est long, bien-aimé. Passons vite. Parlons de la prière. Prendre Dieu au sérieux, c'est prendre au sérieux les prières qu'on lui fait. Lisons Marc 11, 24. Marc 11, 24. Ensuite, nous lirons Matthieu 6, 7 à 8. Marc 11, 24 d'abord. Quand on a une promesse comme celle de Marc 11, 24, on est un milliardaire. Voilà. Marc 11, 24.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Amen. Amen. Le sérieux. On dit tout. Il y en a qui me répondent, oui, mais il y a des choses qu'on a demandées, on n'a pas reçues. Maintenant, si tu le prends au sérieux, ben, redemande. C'est ça, prendre quelqu'un au sérieux. J'aime les apôtres, quand ils n'ont pas pu délivrer un garçon, Jésus est venu, Jésus a délivré le garçon, a chassé le démon. Eux, ils ont dit à Jésus, mais Seigneur, pourquoi nous, on n'a pas pu le faire? Ça, c'est prendre au sérieux quelqu'un. Jésus leur avait dit, je vous envoie, je vous donne l'autorité de chasser les démons. Donc, quand ça ne marche pas, ils reviennent voir Jésus pour dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ça, c'est prendre quelqu'un au sérieux. C'est-à-dire que cette parole a été vraie. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais quand ça ne marche pas, tout ce qui te reste, c'est perdre la foi ou te mettre en colère. Tu n'as pas pris la parole au sérieux. Tu as pris la parole à la légère. Au fait, tu as voulu, quand tu as testé, c'était pour vérifier que cette parole était vraie, mais tu n'as pas vraiment cru en ça. Au fait, quand tu pries, tu veux en même temps vérifier. Mais si tu as cru en ça, quand ça ne marche pas le lendemain, tu réussis. Parce que tu te dis, il ne peut pas mentir. Il est Dieu. Il est vrai. La prière, c'est ça. Il nous a dit que tout ce qu'on demande, nous devons croire. Eh ben, donc, quand on a demandé, ce n'est pas venu, eh ben, on redemande. On lui parle jusqu'à ce qu'on reçoive la paix. Tant qu'on n'a pas la paix, synonyme d'exaucement ou synonyme de prise en compte totale par Dieu, ben, on doit exprimer notre désir de voir la situation changer. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Faire comme si il n'existait pas parce que ta prière n'a pas trouvé, n'a pas expérimenté l'exaucement, c'est ne pas le prendre au sérieux. La prière est un contrat qu'on signe avec Dieu. Puisque comme lui, il a signé un contrat général avec nous, il a déjà fait sa partie. Sa partie à lui, c'est Marc 11, 24. Donc, vous savez ce que c'est qu'un chèque en blanc. Donc, quelqu'un vous donne un chèque qu'il a signé et daté. Il vous demande à vous de mettre le montant que vous voulez. C'est ça Marc 11, 24. Donc, le contrat, il est fait à quel moment? Quand vous mettez votre montant. Tant que vous n'avez pas mis votre montant, ça reste un chèque blanc. Mais, comme c'est fait à votre nom, non, c'est fait, vous avez le chèque, et que vous pouvez mettre votre nom, vous mettez votre nom, vous mettez le montant, il devient un contrat. Ce chèque-là devient un contrat entre la personne qui vous l'a signé et vous qui avez mis son nom. C'est-à-dire que quand vous amenez ce contrat-là auprès des instances qui sont censées reconnaître ça et faire vivre ce contrat, elles le font vivre. Elles le font vivre. Puisqu'il y a la signature de la personne, il y a votre nom, il y a le montant, il y a la date, c'est bon, vous pouvez transférer l'argent. La prière, c'est nous qui remplissons maintenant le chèque. Parce que Dieu, lui, a déjà signé et mis la date. Une date à jamais liée au présent. Une signature, l'œuvre de la croix. À cause de ça, Marc 11, 24, vous pouvez tout demander, je vous donne. Il nous reste à quoi? À faire notre partie, dit j'y crois. Alors Seigneur, nous voulons que tu nous donnes un avion. Parce qu'on en a besoin pour ceci, pour cela. Voilà. Parce que dans tout cela, Dieu, comme il nous aime, il va nous diriger à prier selon sa volonté pour que les choses soient exaucées sans que ça nous fasse du mal. Il ne va pas tout nous donner parce que certaines choses peuvent nous faire du mal. Et c'est ce qui peut expliquer certaines prières qui ne sont pas exaucées. C'est parce qu'il y a aussi le plan de Dieu, ce n'est pas par incapacité. Le temps qui passe peut être juste le travail que Dieu fait pour te purifier, te changer, te transformer, afin que tu utilises l'exaucement à bon escient. Ce n'est pas l'incapacité de Dieu. Il est sérieux. Le chèque est vraiment là. Lisons Matthieu 6, 7, 8. Matthieu 6, 7, 8, qui montre notre manque de sérieux.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Amen. Il nous dit, mais je vous prouve votre manque de sérieux. Ne pas votre manque de sérieux, que vous ne preniez pas au sérieux, vous êtes obligé de parler beaucoup parce que vous avez l'impression que je suis sourd peut-être. Vous êtes obligé de répéter les mêmes phrases. Donc vous me prenez pour un distrait. Si vous êtes sûr de moi, vous dites ce que vous voulez. Vous dites ce que vous pensez. J'entends. Et je le sais même avant que vous le dites. Avant que vous le disiez, je le sais. Alors pourquoi multiplier les paroles comme les païens qui mesurent l'efficacité d'une prière à la longueur de la prière et à la multiplication des paroles? Non. C'est l'efficacité d'une prière vient d'où? Est basée sur quoi? L'efficacité d'une prière est basée sur la foi en Dieu. Et non pas sur la longueur de la prière ni la multiplication des paroles. C'est la foi en Dieu. La femme qui souffrait de perte de sang, il est écrit d'elle que elle se disait en elle-même, si seulement je touchais son vêtement. Cette femme n'a même pas prié Jésus, n'a même pas parlé à lui, à Jésus. Elle a cru en lui. Vous voyez la différence? Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle se disait en elle-même, c'est lui le Messie, c'est lui Dieu. Alors, même son vêtement peut tout faire. Il est tellement grand. Il a pris Jésus au sérieux. Elle a pris Jésus au sérieux. À tel point que là, elle s'est dit, même son vêtement suffit. Il y a une autre femme qui a pris Jésus au sérieux. Elle a dit à Jésus, même les miettes qui tombent de la table des enfants nourrissent les chiens et les chiens sont en bonne santé, ils grandissent. Jésus a dit, oh, madame, comme ta foi est grande. Tu crois que les miettes que j'ai ramenées, de la nourriture que j'ai ramenée pour Israël, peut suffire même à guérir tous les, et à sauver les, l'humanité entière, quoi. Mais tu as compris qui je suis. Tu m'as prise au sérieux. Il est écrit à l'instant même, sa fille était guérie. Bien-aimé, c'est prendre Dieu au sérieux. Quand tu pries, tu sais qu'il entend. Mais quand tu penses que c'est la multiplication des paroles, comme c'est ce qu'on pense en Afrique. Ah, le frère là, quand il prie, c'est vraiment, il peut faire 3 heures à genoux. Mais qu'est-ce que ces genoux vont faire? Ces genoux vont créer quelque chose? Pas du tout. C'est Jésus qui fait les choses. C'est Dieu qui fait les choses. Et la différence, c'est la foi en Dieu. Prendre Dieu au sérieux. Du coup, ta prière est un contrat. Et quand tu vois que Dieu ne semble pas avoir honoré sa part, tu retournes à lui pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il te dise, c'est bon, c'est réglé. La femme, la veuve de Luc 18, Jésus la cite en exemple pour dire, elle a continué à agiter le juge mauvais jusqu'à ce qu'un juge mauvais, le juge mauvais lui rende justice. Alors, à combien plus votre raison, votre papa, Jésus est toujours triste de voir qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris, qu'on ne le prend pas au sérieux, qu'on ne prend pas Dieu au sérieux. Je me souviens d'un de ces versets où il dit, « Ayez foi en Dieu !» Il me dit, « Oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. » Joseph, d'accord, il a fait des années en prison, mais quand il est sorti quoi? Premier ministre d'Égypte. Il a pris Dieu au sérieux. Jacob, il est ressorti de chez Laban riche. Il a pris Dieu au sérieux. David a pris Dieu au sérieux. Il a dit, mais non, si c'est le Dieu d'Israël. Mais Goliath, c'est quoi? C'est une fourmi? Moi, je viens au nom du Dieu d'Israël. Goliath lui dit, mais t'es un petit, je vais te donner à manger aux oiseaux. Il lui dit, mais oh, c'est toi qui es petit, parce que moi, celui qui est en moi est plus fort que toi. C'est le Dieu infini, le Dieu tout-puissant. Voilà des gens qui ont pris Dieu au sérieux. Donc, c'est des gens, quand ils priaient, c'est comme si Dieu était en face d'eux. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et si vraiment tu crois qu'il existe, tu feras tes projets avec lui. Parce que lui, c'est la carte qui gagne. Tu construiras tout avec lui. Tu ne le mettras pas de côté pour quoi que ce soit. On va se plaindre de ton enfant à l'école. Tu vas prier Dieu. On va le malmener à l'école. Tu vas prier Dieu. Tu ne vas pas aller chercher la police. On va t'annoncer un licenciement, le licenciement. Tu vas prier Dieu. Donc, c'est un chèque en blanc qu'on a, Marc 11, 24. Lisons encore Jean 16, 24. Donc, comme ça, c'est plus facile à retenir. Marc 11, 24, Jean 16, 24. C'est toujours la même chose. Jésus ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez du pain? Oh, allez plus loin, Jean 16, 24.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
Amen. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous avez demandé pour le moment? Rien du tout. Dieu peut faire tellement de choses, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi il a pleuré dans Jean 11, 35. Et Jésus pleura. Il a pleuré de voir les hommes ne pas prendre Dieu au sérieux. Jésus dit, je vais le ressusciter. Les gens disent, mais au dernier jour. Donc, ils ont du mal à croire qu'ils puissent tout faire. Oh, Seigneur, aide-nous à te prendre au sérieux. Moi, le premier, prenons, si vraiment nous prenons Dieu au sérieux, nos prières vont changer de dimension. On va s'inviter nous-mêmes dans des choses qui nous dépassent. On s'invite, on se dit, mais je viens avec Dieu. Tu t'invites. Vous imaginez que le président, c'est ton cousin. Mais le jour où il dit, mais je vais passer la journée avec toi, mais tu vas l'amener partout parce que tu sais que partout où vous irez, les portes seront ouvertes. Là où un vigile t'avait refusé un jour, tu vas avec ton cousin président. Dans un bureau de l'office de logement qui t'avait été, où tu avais été rejeté un jour, le jour où il a dit, il passe la journée avec toi, tu l'amènes là-bas. Tu vas voir comment. Donc, ça va s'ouvrir. Au fait, le protocole du président va aller annoncer déjà à ce bureau-là que le président arrive. Donc, quand toi tu arrives, tu es traité comme lui. Oh, monsieur, asseyez-vous. Parce que le cousin président est là. Et quand il va dire, ben, je suis venu pour... pas de problème. Monsieur, revenez demain à 9h, tout sera fait. Tu deviens président parce que tu es avec ton cousin président. Mais, alors nous, on a notre frère. Jésus, c'est notre frère maintenant. Du coup, quand on prie, lui-même dit dans Jean 14, bien aimé, il y a tellement de versets à lire. Dans Jean 14, 12 à 14, il dit, demandez à mon nom. Vous allez pas comprendre comment les portes vont s'ouvrir. Demandez. Mais quand vous avez l'impression que vous avez beaucoup prié, il n'y a rien eu, ça veut dire que ça se construit. Je nous le dis aujourd'hui, ça se construit parce qu'il est sérieux. Il est sérieux, ce n'est pas un menteur, il est sérieux. Et si on le prend au sérieux, on doit se dire qu'il construit les choses. Et donc du coup, je dois avancer toujours dans la même direction, dans cette construction-là. Je ne dois pas changer d'endroit, changer de construction, non. La construction que j'ai commencée avec lui dans la prière, je dois la continuer. Il faut que lui me dise, non, ce n'est pas une bonne direction. Mais tant qu'il ne me l'a pas dit, je continue. La prière. Jusque-là, vous n'avez rien demandé. Vous ne demandez que des boutiques. Il faut demander à la France. Il y en a qui demandent à remplir une salle. Il faut demander les radios françaises, les télévisions. Il faut demander à parler de Dieu. C'est lui qui tranchera. Mais nous, on est, le chèque est en blanc, donc il n'y a pas de limite. Donc je mets le montant que je veux. Si je dois demander l'Amérique, je demande. Tout est lié au projet qui trotte dans mon cœur, que je pense venir du Saint-Esprit. Alors, je me lance. Même si ça paraît fou. C'est fou pour les hommes, c'est trop grand pour les hommes, mais ce n'est pas trop grand pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus, quand on lui a dit, le monsieur lui a dit, si tu peux guérir mon fils, Jésus lui a dit, quoi? Si tu peux? Jésus n'a pas dit, je peux. Il lui a dit plutôt, tout est possible à celui qui croit. Vous voyez dans quelle dimension Jésus nous met? Dans quelle responsabilité nous met? Il dit, moi je peux tout. Donc, il ne le dit pas. Il dit, mais non, la vérité, c'est vous qui devez demander ce que vous voulez. N'essayez pas de me traiter d'incapable. Je peux tout. Je ne te réponds même pas à ça. Je te mets toi au défi de me prendre au sérieux et de demander la chose la plus grande. Amen. La prière. Un petit point de passage, c'est un petit, pas pour nous, mais c'est assez grand. C'est quoi? Quand on dit que Dieu vous bénisse, c'est devenu un bonjour ou un au revoir pour beaucoup. Ils n'y croient pas, ils n'y croient plus vraiment. Donc quand on finit que Dieu vous bénisse, quand il lit ça, c'est comme s'il n'a même pas lu le texto que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un dit, ah mais frère, que Dieu te bénisse, c'est comme au revoir. Bien-aimé, est-ce qu'on a, on a médité cette phrase-là, que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui bénit. Même si cette phrase-là sort d'un chrétien qui n'est pas à 100%, et lui, il dit que Dieu te bénisse. Cette phrase-là devrait nous réjouir. C'est-à-dire que quand tu entends cette phrase-là, que Dieu te bénisse, moi, ça m'a toujours réjoui quand les frères me disent que Dieu te bénisse. Quand quelqu'un me fait un texto, il finit par « que Dieu soit avec toi ». Oh, je suis content. Parce que c'est Dieu qui va être avec moi. Et que Dieu, lui, il prend au sérieux. C'est une prière que Dieu prend au sérieux. Et moi, je l'accepte avec joie parce que je sais que Dieu est sérieux. Beaucoup ne s'intéressent plus à que Dieu vous bénisse. Ou parfois, ils le disent sans poids. Mais je ne suis pas surtout dans la diction. Je suis plus dans la réception. Beaucoup ne reçoivent plus que Dieu vous bénisse à la dimension que c'est. Vous savez, son fils, Ésaü. Hein, Ésaü a pleuré pour demander la bénédiction de son père. Et le papa a dit, je ne peux plus. J'ai déjà béni Jacob. C'est pour vous dire qu'attention, la bénédiction est importante. Que Dieu vous bénisse. Ne considérons pas ça comme venant d'un homme. Considérons ça comme venant de l'Esprit de Dieu qui parle à travers l'homme. C'est Dieu qui nous bénit. Prenons ça au sérieux. Jacob a béni ses enfants. Et ils étaient attentifs à ça. C'est important. Mais aujourd'hui, on est dans la religion. Que Dieu vous bénisse, c'est devenu un au revoir. C'est devenu, comme on dit, une civilité. Non! C'est une bénédiction venant de Dieu. Quand quelqu'un finit par que Dieu te bénisse, fais un effort pour dire à Dieu, mais là, je viens de recevoir que Dieu me bénisse. Mais j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai tel... Je m'attends à toi, merci. Donc, que Dieu vous bénisse là, c'est d'une puissance extraordinaire. Parce que vous savez, qui aujourd'hui néglige l'air, frères et sœurs? Qui aujourd'hui néglige l'air? Parce que nous respirons presque toutes les secondes. Donc, même moins que chaque seconde. Mais pourtant, nous apprécions chaque bouffée d'air. Hein? Chaque bouffée, nous l'apprécions. Alors que Dieu nous bénisse, c'est comme de l'air. Ça paraît rien, parce qu'il y en a beaucoup. On peut te le dire 5 fois dans la journée. Mais bien aimé, chaque que Dieu vous bénisse doit nous produire de la joie en nous. Et vous savez, pour nous faire comprendre ça, je prends l'exemple contraire. Imagine qu'un cousin t'appelle, après à la fin il dit, sois maudit. Ça va mal finir. Hein? Tu vas te fâcher. C'est quoi ça? C'est sans effet. Mais pourquoi tu te fâches quand on dit « sois maudit » et tu n'es pas content quand on dit « sois béni » ? Religion. Il y a un problème. On ne prend pas le Dieu de que Dieu vous bénisse au sérieux. Parce que si on le prenait au sérieux, ce Dieu-là, quand on dit que Dieu vous bénisse, on serait content. On finirait le coup de fil avec sourire. Il m'a béni au nom de Dieu. C'est Dieu qui me bénit grâce à ce frère-là. Et du coup, on ne reçoit pas toutes ces bénédictions qu'on nous cite 5 fois, 7 fois, 10 fois dans la journée. On ne reçoit pas, puisque c'est devenu une civilité. Mais si à chaque fois on souriait de remerciements et de joie parce que quelqu'un nous a bénis, c'est Dieu qui nous a bénis, parce que lui, il a dit que Dieu vous bénisse. Ça changerait beaucoup de choses dans nos vies. Beaucoup, beaucoup de choses. L'air que tu respires chaque jour, c'est ça qui te permet de gagner un salaire de 15 000 euros. Donc ça change beaucoup l'air que tu respires chaque seconde. Ça change ta vie. Chaque que Dieu vous bénisse, c'est important. Et il y en a qui ne s'en préoccupent même pas. Bien-aimé, tout est sérieux. Quand on dit Amen, ça veut dire qu'on a accepté ce qui a été dit, que ça s'accomplisse en nous. C'est important. Amen. C'est comme un contrat, c'est une prière. Que Dieu vous bénisse, c'est une prière. On dit amen. Merci. Merci. Et quand Dieu voit ça, il dit, ah, lui, il me prend au sérieux. Et il agit. Il agit dans les gens qui le prennent au sérieux. Prenons Dieu au sérieux, bien-aimés. Nous clôturons avec Ésaïe 6, 1 à 8. Ésaïe 6, 1 à 8.
L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. »
Amen. Ésaïe voit Dieu dans sa gloire. Quand il voit Dieu dans sa gloire, il veut fuir. Parce qu'il sent qu'il n'est pas digne de ça. Qu'il a le péché. Et Dieu dit, n'aie pas peur. Je te purifie de tes péchés. Quand il est purifié de ses péchés par l'ange, ça veut dire quoi? Il est accepté par Dieu. Maintenant, Dieu du haut de son trône, il dit, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Ésaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Bien-aimé, quelle réponse autre qu'il pouvait donner avec la vision qu'il a eue? Voyez la vision qu'Ésaïe a eue. Dieu est comme ça tout le temps. Ça veut dire que quand nous on dit Dieu, il est comme on vient de lire là. Maintenant, quand ce Dieu-là dit, je vais envoyer qui? Après t'avoir purifié par le sang de l'agneau. Si vraiment, on prenait Dieu comme Ésaïe a vu là, qui va donner des raisons du genre? Je vais aller enterrer d'abord mon père. J'ai tel doctorat à apprendre. Il n'y aurait pas du tout ça parce que, en réalité, c'est parce qu'on ne prend pas Dieu au sérieux. Parce qu'on, on veut le voir comme Ésaïe. Non, mais lui, il dit qu'il est comme ça tout le temps. C'est comme ça qu'il est. Là, la Bible nous présente ce qu'il est. Quand notre frère Paul a vu Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 9, sur la route de Damas, quand il a vu Jésus le faire tomber par une brillante lumière et lui parler, quelle a été sa réaction? Que dois-je faire, Seigneur? Bien-aimé, c'est logique. Quand on voit Dieu dans sa gloire et qu'il nous accepte, automatiquement, on veut s'associer à lui dans tout, à jamais. On veut lui appartenir et faire sa volonté. C'est automatique. Prendre Dieu au sérieux, c'est lui laisser sa vie à 100% parce qu'on a compris à qui on a affaire. C'est nous qui sommes gagnants. C'est nous qui sommes gagnants. On te présente. Bien-aimé, il y a entreprise, entreprise. Il y a des entreprises qui ont des avantages monstres. Tu entres dans l'entreprise, on te donne une maison, une voiture, tout ça. Et quand tu te retrouves devant le directeur, il te dit, je t'embauche. Et toi, tu lui dis, non, il me faut une semaine de réflexion. Attends, quand tu rentres, ta femme sort ses affaires, elle rentre chez ses parents. Hein. De quoi ? T'as demandé une semaine de réflexion là-bas ? Reste avec ta réflexion, je m'en vais chez mes parents. Donc, une entreprise que tout le monde sait que quand tu entres là-bas, ta vie, c'est fini, c'est réglé. Ton avenir est réglé. Tes enfants, ils auront l'université gratuite, payée par l'entreprise, tous ces avantages-là. Et donc, quand toi, tu rentres à la maison, tu dis, mais on m'a proposé le travail de directeur adjoint. Mais je lui ai demandé une semaine de réflexion. Là, ta femme va seulement dire, quoi ? Elle entend, tu vois seulement les valises se préparer. Je vais chez mes parents, tu es devenu fou. Donc, toi, tu rencontres le Dieu vivant, tel que nous, on le connaît maintenant, le papa de Jésus-Christ, tel qu'on est accepté. Le même Dieu qui dit, votre Père a décidé de vous donner le royaume. Il nous a donné le royaume. Le Dieu que Paul rencontre sur le chemin de Damas, qu'Esaïe rencontre là. Dieu n'a même pas demandé à Esaïe, je veux t'enrôler. Non, il lui a dit, je vais envoyer qui ? Mais c'est Esaïe qui se précipite pour dire, moi, je veux ton serviteur. C'est moi qui suis béni, c'est moi qui suis privilégié de ton serviteur bien-aimé. Si on prend Dieu au sérieux, ça sera du 100%. Prendre Dieu au sérieux aussi à des niveaux. Ça ne veut pas dire que on doit être blanc ou noir. Non, ce n'est pas blanc ou noir. Il y a des degrés. Et Dieu nous parle, à moi le premier, qu'on monte de degrés. Qu'on monte. Comme je dis souvent, il y a des choses, je ne pense pas que c'est un homme de prêcher, ça, c'est Dieu lui-même qui doit nous parler, quoi. C'est ça, prendre Dieu au sérieux. On va lire, Diacre Frère, un verset qui n'était pas prévu. 1 Timothée 1,17. 1 Timothée 1,17. Je pense que le verset-là peut-être ne va pas vous intéresser, mais ce verset-là a bouleversé la vie d'un homme. 1 Timothée 1,17. Cet homme-là s'appelle Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, c'est Dieu l'a utilisé lors du premier réveil aux États-Unis. Et il avait une fameuse. Il a prêché une prédication qui s'intitule Entre les mains d'un Dieu en colère. Et nous allons comprendre pourquoi en lisant ce verset. 1 Timothée 1,17. C'est pour nous dire ceci, dans notre lecture de la parole, dans notre écoute des prédications, il y a quelque chose qui va nous faire boum. Cette chose-là qui va nous faire boum, c'est le contrat qu'on doit signer avec Dieu. Saisissons les choses. Il y a quelque chose qui va faire tilt en toi quand tu vas entendre. Toute la Bible est pour nous, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui va faire qui va te secouer. Attention, c'est ton contrat. Alors ne sois pas distrait. Construis ta vie autour de ça. Bref, construisons nos vies autour de la parole. Lisons 1 Timothée 1,17.
Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.
Amen. Jonathan Edwards, quand il a lu ce verset-là, c'est pas comme vous et moi, on vient de lire ça, je suis toujours bien assis là. Mais lui, quand il a lu ce verset-là, il a eu comme une sorte de vertige. Quelque chose a tourné. C'est comme si il était arrivé à la place d'Esaïe. Il a vu Dieu dans sa gloire. Parce que ce verset dit, ô roi des siècles, roi des siècles, roi du temps, immortel, invisible, seul Dieu, soit la gloire. Donc, il a vu Dieu dans sa gloire. Quand lui, il a lu ce verset-là, ça a bouleversé sa vie. Et quand il a vu, quand il a lu ça, quand il a regardé les humains, il a dit, mais Ils sont en danger. Quand Ésaïe a vu Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Première phrase. Malheur à moi, je suis en danger. Je suis en danger. Il est comme ça, il est saint. Le mal ne peut pas subsister devant lui. Il est en colère contre le mal. Il a eu peur. C'est l'ange qui le calme. Attends, on va purifier, on te purifie. Maintenant, tu peux rester calme. Jonathan Edwards, quand il a vu ça, ça lui a donné le vertige. Il a eu peur. Il a dit, Dieu est glorieux ici. 1 Timothée 1:17. Du coup, toute sa vie, il a passé ça en prêchant. Repentez-vous, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est ça la prédication principale qu'il a prêchée. Entre les mains d'un Dieu en colère. Il paraît que pendant que lui, il prêchait ça, les gens, c'était en plein air, je crois, ils s'accrochaient aux arbres, pensant que la terre était en train de se fissurer et qu'ils entraient en enfer. Ils s'accrochaient. Au fait, ils ressentaient ce que Jonathan avait ressenti quand lui, il avait lu ce verset-là. Les gens ressentaient la colère de Dieu contre le péché. Il y a eu un réveil. Les gens se convertissaient, abandonnaient le péché. Parce que Jonathan Edwards a construit sa vie autour de ce verset. C'est ainsi que beaucoup ont été sauvés. Dieu nous appelle à construire nos vies autour de lui, autour du sérieux qu'il est. Dieu est sérieux. Prenons-le au sérieux et construisons tout. Autour de ça, non seulement nous expérimenterons la gloire de Dieu, mais nous serons un canal de salut pour beaucoup de personnes. Prenons Dieu au sérieux et marchons avec lui au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, nous voulons construire nos vies autour du fait que tu es sérieux. Que ta parole est vérité, que chacune de nos prières est entendue. Chacune de nos prières, Seigneur, est un contrat avec toi. Chaque verset biblique est un chèque en blanc. Ô Seigneur, nos prières sont des chèques, Seigneur. Ta parole, c'est des chèques, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à construire toutes choses avec toi. À bâtir des projets avec toi, tel que ta parole nous a touchés, tel que ta parole nous a secoués, que cela nous amène à bâtir ces projets avec toi, Seigneur. Et nous verrons ta gloire. Merci Jésus pour tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.